Bonsoir à tous, à toutes, à vous qui êtes en présentiel et à ceux qui nous écoutent à distance. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Donc, le département d'études patristiques qui a organisé cette soirée en lien avec l'Institut des sources chrétiennes. Et je voudrais déjà saluer chaleureusement le directeur de sources chrétiennes, Guillaume Maddy, qui prendra la parole tout à l'heure, ainsi que le secrétaire de l'Association des Amis de Sources Chrétiennes, Dominique Gonnet. Je salue aussi le frère Lionel Gentric, des éditions du CERF, éditions du CERF qui édite fidèlement, très fidèlement, les volumes de Sources Chrétiennes depuis 83 ans, si je ne me trompe, hein, depuis 1942, depuis l'apparition de la vie de Moïse. Selon la coutume, la dernière demi-heure de notre soirée permettra justement d'entendre Guillaume Maddy qui nous présentera l'ensemble des volumes parus au cours de cette année 2025 dans la collection Sources Chrétiennes. Mais selon la coutume aussi, nous avons fait le choix de nous concentrer auparavant sur l'un de ces volumes parus dans les mois écoulés. Et en l'occurrence, ce volume « Texte chrétien chinois du Haut Moyen-Âge », volume préparé par Alexis Balmont, à la suite d'une thèse qu'il avait soutenue sur le même sujet. Alexis Balmont est sinologue, il réside en Chine. Sa mère est présente parmi nous ce soir, je tiens à le signaler. Alexis Balmont ne peut pas être parmi nous ce soir, mais nous pouvons lui être très reconnaissants pour ce magnifique travail qu'il a accompli avec ce beau volume, dont j'ai appris d'ailleurs tout récemment qu'il est déjà traduit en anglais. Ce volume de sources chrétiennes nous donne en effet tout à la fois le texte chinois et la traduction française de 7 textes chrétiens chinois qui datent de la période du 7e au 10e siècle. Des textes qui n'ont été redécouverts qu'à l'époque moderne ou contemporaine, l'un au 17e siècle et les autres au 20e siècle ou même au début du 21e siècle. Ce sont des textes de grand intérêt car ils témoignent de l'arrivée du christianisme en Chine et de sa diffusion dans les décennies qui ont suivi. Comme on le sait, ce sont d'abord des missionnaires venus de Perse qui ont pu établir un certain nombre de communautés en Chine. On parlait traditionnellement de chrétiens nestoriens, aujourd'hui on préfère parler de l'église de Perse. Cette église de Perse quelle qu'ait été sa position par rapport au débat aux doctrines christologiques du 5e siècle et des siècles suivants, a été une église très missionnaire. Et donc, il y a eu une présence chrétienne dans ce continent chinois, bien avant l'arrivée de Matteo Ricci et des autres missionnaires à l'époque moderne. Nous aurons la chance d'entendre, à propos de ce volume, deux intervenants qui sont eux-mêmes sinologues, Yves Vendée et John Lagaway. Je les présenterai davantage le moment venu, mais dès maintenant, je voudrais les remercier chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Auparavant, je voudrais moi-même proposer une première intervention. Je voudrais présenter rapidement le volume, et surtout, à cette occasion, je voudrais laisser entendre pourquoi le théologien que je suis, un théologien non sinologue, apprécie particulièrement la publication de cet ouvrage. Ce volume rassemble donc 7 textes chrétiens chinois. Alors, bon, les patrologues vont dire que ce sont des textes de la fin de l'époque patristique, les médiévistes vont dire que ce sont des textes du Haut Moyen-Âge, peu importe, ce sont des textes du 7e au 9e siècle, 7e au 10e siècle, disons. Je présenterai très rapidement ces 7 textes, non pas dans l'ordre où ils figurent dans le recueil, mais plutôt enfin dans un ordre un petit peu différent. Je commence par le texte qui est certainement le plus connu, l'inscription qui figure sur la stèle de Xi'an. Cette stèle qui a été redécouverte au début du XVIIe siècle. Elle date de 781 et elle raconte l'arrivée et l'expansion du christianisme en Chine depuis l'année 635. Son titre est Stèle de la diffusion de la religion lumineuse du Grand Occident en Chine, relatée par Jing Jing, moine du monastère du Grand Occident, éloge avec préface. Et l'inscription est donc attribuée à un certain Jing Jing ou Adam. Et de fait, c'est un éloge du christianisme, la religion lumineuse, un texte apologétique, donc, qui a pour visée d'assurer le soutien de la cour impériale. Et ce texte s'ouvre par un prologue qui est une présentation de la foi chrétienne, un prologue dans lequel l'auteur évoque la Trinité, la création du monde, dans des termes qui, sans doute, sont assez parlants, ou même très parlants, pour des lecteurs chinois. Je lis simplement quelques lignes. Le vénérable de l'origine, le Seigneur de vérité Elohim, sépara par la croix pour fixer les quatre directions. Il mit en mouvement le vent des origines et fit naître les deux souffles. Puis il changea le chaos en cosmos et fit tourner le soleil et la lune pour faire les jours et les nuits. Quand on lit « sépara par la croix », on ne peut pas ne pas penser, quand on est patrologue, à quelques textes sur la croix cosmique. Justin, surtout, fameux texte attribué à Hippolyte de Rome. Bon, les deux souffles, on pense Yin et Yang, bien sûr. Alors, l'auteur de l'inscription évoque ensuite la chute, puis l'incarnation, et puis, un nouveau passage que je voudrais citer. Notre Trinité, ça doit être le passage suivant, le second alinéa, notre Trinité se manifesta dans le Messie, le Vénérable de Lumière, voilant sa véritable majesté, il naquit comme un homme, un ange proclama cette bonne nouvelle, dans le Grand Occident, une Vierge donna naissance au Saint. Le présage fut annoncé par une étoile lumineuse et la Perse, parce qu'elle en vit l'éclat, vint lui offrir un tribut. On peut être surpris par la mention de la Perse parce que l'évangile de Matthieu parle seulement des mages venus d'Orient, mais n'oublions pas que justement ces chrétiens venus en Chine étaient originaires de Perse. Alors par la suite, le prologue évoque le ministère du Messie jusqu'à son accomplissement et il décrit la communauté monastique. Vient ensuite un développement sur l'histoire du christianisme en Chine depuis l'année 635, puis un éloge du souverain qui est dédicataire de la stèle. À cela s'ajoute un poème qui reprend en vers ce qui vient d'être dit. Le Seigneur de vérité est sans origine, il est dans le profond silence éternel. Au commencement, il créa les transformations, il produisit la terre et établit le ciel, puis il se manifesta par sa naissance, il sauva toutes choses, quand son jour s'éleva pour détruire les ténèbres, que tous témoignent de ce mystère véridique. La stèle donne en plus, sur les côtés, toute une liste de noms syriaques, de noms chinois, et l'ensemble, qui fait beaucoup d'allusions aux écrits des traditions chinoises, était sans doute adressé à des lettrés chinois proches du pouvoir impérial. Le texte renseigne ainsi sur la diffusion du christianisme en Chine, mais aussi sur l'identité des chrétiens qui sont ainsi évoqués. Ce sont des moines dont la liturgie se rattachait à la liturgie syro-orientale, comme le montre la présence de caractères syriaques à côté des caractères chinois, à certains endroits. Un patrologue ne peut pas lire l'inscription de cette stèle sans penser à ce qu'avaient fait les apologistes chrétiens du IIe siècle quand ils s'étaient forcés d'accréditer le christianisme auprès du pouvoir romain, auprès de l'Empire romain, et lorsqu'ils s'étaient efforcés, à cette fin, de présenter la foi chrétienne et l'existence chrétienne dans des catégories significatives pour le monde gréco-romain. Au fond, c'est à une opération analogue que s'est adonné manifestement l'auteur de la stèle, mais de manière plus audacieuse encore, car alors que les apologistes du IIe siècle étaient eux-mêmes héritiers de la culture gréco-romaine et que le Nouveau Testament avait été lui-même écrit en grec, l'auteur de l'inscription, ici, présentait le christianisme dans une langue et dans un contexte tout autre que ceux du monde méditerranéen. Alexis Balmont écrit de fait que la stèle présente la religion lumineuse comme, je cite, une authentique expression de la voie taoïque. Il dit qu'elle emprunte beaucoup d'expressions au bouddhisme chinois et que le christianisme y apparaît comme l'accomplissement des vertus confucéennes. La stèle représente sans doute, bien avant Matteo Ricci, l'une des tentatives les plus audacieuses de l'inculturation chrétienne dans le monde de la Chine. Je vais passer beaucoup plus rapidement sur la plupart des autres textes. Je voudrais d'abord dire que l'on peut rapprocher de cette stèle un deuxième texte, beaucoup plus court, intitulé « Le livre de la religion lumineuse du Grand Occident, de celui qui révéla le principe parfait de l'origine première ». Ce texte évoque l'éternité du Dieu créateur. Il dénonce ensuite l'égarement de certaines créatures et il enseigne enfin ce qui était accompli par le Messie. Et comme la stèle de Xi'an, Il contient lui aussi beaucoup de termes qui sont empruntés à des traditions chinoises. Il s'inspire en particulier de certains sutras bouddhiques. Mais il diffère néanmoins de la stèle, d'abord par son ouverture apocalyptique et ensuite par la place qu'il donne à la polémique contre certains courants du judaïsme. J'évoquerai ensuite un troisième texte, autre texte apologétique, le discours sur le Dieu unique, un texte composé à partir de sources qui remontent probablement au 7e siècle. Ce texte s'adresse sans doute à des non-chrétiens ou à de nouveaux croyants qui sont encore tentés par l'idolâtrie et dont la foi n'est donc pas encore très solide. Le texte commence par démontrer l'existence de Dieu en faisant appel à la raison, puis il traite du monde et de l'être humain. Il évoque ensuite la responsabilité de l'être humain qui doit choisir entre Dieu et les démons, puis il donne un enseignement moral, et de là il présente le Messie, avant de terminer par une exhortation à l'adresse de ses destinataires. Alexis Balmont fait remarquer à juste titre que la christologie de l'auteur n'est pas tout à fait orthodoxe. Cet auteur, de fait, ne distingue pas clairement le vénérable céleste, Dieu le Père, et le vénérable de ce monde, le Fils, ce qui n'est pas sans rappeler le modalisme des premiers siècles. De même, le texte laisse entendre que le vénérable de ce monde n'était à l'origine qu'un homme exemplaire et que Dieu l'aurait ensuite adopté comme fils, ce qui rappelle des courants adoptionnistes. Cet écrit atteste en tout cas le souci apologétique de son auteur qui veut acheminer des non-chrétiens et même des chrétiens peu avancés vers une plus grande connaissance de la vérité. Et cela, non pas en partant d'emblée de la révélation, mais en partant d'une argumentation, par l'usage de la raison, il essaie d'établir d'abord l'existence de Dieu ainsi que son unicité. Autre texte apologétique, c'est le 4e sur les 7, le livre du Messie. Comme le précédent, il semble adressé à des non-croyants ou à des chrétiens qui sont seulement au début de leur itinéraire, et comme le précédent aussi, il recueille des traditions remontant au 7e siècle, même s'ils ont été probablement unifiés un peu plus tard. C'est un texte un petit peu à part dans la mesure où il transmet des croyances quelque peu marginales par rapport au courant dominant du christianisme. Ce texte semble avoir été composé dans le cadre d'une communauté dite judéo-chrétienne dans l'ouest de la Chine et il porte à la fois la marque d'influence bouddhique et d'influence manichéenne. L'auteur, sans doute, a voulu rapprocher Jésus du Bouddha et de Mani pour le rendre plus parlant, plus significatif dans son contexte religieux. Cinquièmement et sixièmement, le recueil comprend deux textes qui devaient soutenir la liturgie des chrétiens chinois. Le premier, c'est l'hymne à la Trinité de la religion lumineuse du Grand Occident pour recevoir le salut. C'est un poème liturgique, qui adapte en chinois une version syriaque ou sogdienne du Gloria in excelsis Deo. Et ce pourrait être le témoin de ce qui était effectivement chanté dans le cadre de la liturgie. J'ai simplement transcrit ici la dernière strophe. Ô très saint et universel vénérable, ô Messie, nous chantons la compassion immense et secrète du Père compatissant, l'humilité du très saint Fils et la vie que donne le Saint-Esprit, car il accomplit parfaitement la loi d'une manière qu'aucune oreille n'avait encore même imaginée. Note la présence du mot compassion, compatissant, terme évidemment chargé de résonance, je pense en particulier dans la tradition bouddhique. Là encore, écrit Alexis Balmont, c'est un modèle d'inculturation qui transmet fidèlement le sens du Gloria tout en l'enrichissant. Le second texte liturgique, c'est le livre des Vénérables. Ce texte est le plus tardif de tous les textes du recueil. Il a pu être composé au 9e ou même au 10e siècle et il était destiné à soutenir la prière chrétienne. Il consistait en une double litanie, d'abord une litanie de 22 princes de la loi qui étaient considérés comme des saints et d'autre part une liste de 35 livres. Je vais terminer en évoquant un dernier texte qui est sans doute l'un des plus remarquables, le texte intitulé « Le livre de ceux qui cherchent la joie et la paix des mystiques ». Alexis Belmont le présente lui-même comme le plus spirituel des textes du corpus. Ce texte, qui date du 8e ou 9e siècle, se présente comme un dialogue entre Simon-Pierre et le Messie. De même que dans les sutras bouddhiques, un maître enseigne la foule en répondant aux questions que lui posent les disciples, de même ici, le Messie répond aux questions de Simon-Pierre en enseignant des moyens, des chemins pour progresser et pour trouver la paix et la joie. Alors, une première fois, Simon-Pierre interroge le Messie sur les moyens du salut. Et le Messie répond en enseignant le non-désir, le non-agir, la non-vertu et la non-compréhension. Alors, ça fait référence à la doctrine bouddhique. Mais l'auteur réinterprète en quelque sorte cet enseignement comme l'invitation à un lâcher-prise radical. Une deuxième fois, Simon-Pierre interroge. Je ne saisis pas. Comment obtenir la joie en se maintenant dans le vide? Et à nouveau, le Messie répond. Une troisième fois, Simon-Pierre interroge. Nous aimerions vraiment pouvoir nous perfectionner, mais nous n'y arrivons pas parce que nous ne savons pas comment progresser. Je ne saisis pas quels sont les moyens concrets que nous puissions mettre en œuvre. L'unique véritable, l'unique vénérable, le Messie, répondit, donc c'est la diapositive suivante, il répondit, « Connais-tu l'histoire des fruits précieux de la forêt de Jade, ceux qui poussent sur la montagne des joyaux ? Il y eut une fois un malade qui en entendit parler. Il y pensait le jour, il y pensait la nuit, il revenait sans cesse en pensée à cette forêt et à ses fruits. Mais voilà, la route était longue, la montagne haute, et lui il était boiteux et sans force. » Il se mit résolument en route, mais à cause des souillures qui s'étaient accumulées en lui, il n'avançait pas. Par chance, voilà que survint un proche qui était rempli de sagesse et de mérite. Par charité, il le secourut, c'est-à-dire qu'il le conduisit, l'accompagna, le soutint et l'assista, jusqu'à ce qu'ils triomphent ensemble des difficultés et qu'ils parviennent au terme de sa recherche. Grâce à lui, il fut guéri de son infirmité. Ça rappelle un peu le rôle des anciens dans la littérature monastique. Et donc, le Messie, à partir de là, enseigne à Simon-Pierre des exercices de méditation, il y en a 10, qui sont toujours introduits par la même formule, « Médite sur ce monde qui passe ». En voici deux exemples. Premièrement, « Médite sur ce monde qui passe. Ton corps de chair, inévitablement, va vieillir peu à peu. Tous, vous mourrez. Le corps de chair est comme une auberge. On y réside pour un temps, puis on le quitte. On y installe un lit. On dispose des bonnes choses à manger, mais rien de cela ne m'appartient. Ainsi en est-il des choses humaines. Un jour, il te faudra les quitter. Qui pourrait les conserver ? Et puis, un peu plus loin, cinquième exercice de méditation. Cinquièmement, médite sur ce monde qui passe. Il y en a qui amassent des trésors, qui entassent des richesses. Pour cela, ils travaillent dur, ils souffrent beaucoup. Mais à la fin, cela ne sert absolument à rien. Ils sont comme des petites fioles qui voudraient contenir les eaux des fleuves et des mers. Ils peuvent bien remplir leurs petites fioles, mais quand ils les auront remplies bien à ras-bord, ils ne pourront plus rien prendre. Alors à la fin, le disciple, Simon-Pierre, veut à nouveau interroger. Simon-Pierre se leva à nouveau pour poser de nouvelles questions, mais le Messie lui dit, « Assez, ne parle pas davantage, car je suis comme un immense puits dont les eaux sont insondables. Quand un malade vient de guérir, il ne faut pas trop le faire boire, sans quoi il risque une rechute. » C'est vraiment un beau texte qui, je crois, vraiment est à hauteur de grands textes de la mystique chrétienne aussi dans d'autres régions, dans d'autres parties du monde. J'arrive donc au terme de cette rapide présentation. J'espère simplement avoir fait sentir l'intérêt de ces textes qui se sont efforcés de présenter le christianisme dans un monde culturel et religieux tout autre que celui du monde méditerranéen. Des textes qui sont vraiment représentatifs de ce qu'on appelle aujourd'hui un christianisme inculturé et de manière audacieuse, puisqu'ils ne se sont pas simplement exprimés à travers le langage confucéen, mais aussi à travers des langages davantage ou proprement religieux, comme ceux du taoïsme et plus encore du bouddhisme. Mais il est temps d'entendre maintenant la voix de sinologues qui sont particulièrement à même de se prononcer sur ce volume, sur ces textes chrétiens chinois. Et je voudrais d'abord donner la parole à Yves Vendée, qui est jésuite, docteur en philosophie, enseignant à l'Université catholique de Lille et aux facultés Loyola Paris. Yves Vendée a soutenu en 2018 une thèse de philosophie à l'Université Sun Yat-sen à Canton sur l'herméneutique confucéenne des textes classiques en dialogue avec la pensée de Gadamer et de Ricoeur. Il a un certain nombre de publications à son actif dans les champs de l'interprétation des classiques chinois et des réflexions sur la construction de l'identité dans une perspective multiculturelle. Alors Yves, comment les textes présentés dans ce volume se situent-ils dans l'histoire plus large du christianisme en Chine? Est-ce qu'ils ont eu un réel impact? Dans quelle mesure? Jusqu'à quel point?
Merci Michel, bonsoir à toutes et tous. Tout d'abord, je dois dire que je suis assez intimidé d'avoir à intervenir ce soir dans une soirée des sources chrétiennes. Je suis plus habitué à des environnements liés aux études chinoises. Une première chose qui m'a frappé dans ce volume, c'est la qualité de l'édition, des notes critiques, des introductions de chaque texte, et puis les choix aussi de traduction qui ont été faits. Alors je ne vais pas être capable ce soir de rendre compte de tout cela, et puis ce serait intéressant d'entendre Alexis aussi là-dessus. Mais en tout cas, d'un point de vue de la qualité du travail scientifique et de présentation des textes, ça a vraiment été un plaisir de se plonger dans ce volume. Je vais juste faire quelques compléments historiques, quelques remarques méthodologiques, et puis poser quelques questions, qui sont comment je réagis à ce volume. Alors, pour des compléments historiques, peut-être qu'un premier complément, ce serait de dire que depuis un siècle et demi en Chine, les découvertes archéologiques modifient progressivement le paysage et la connaissance que l'on a des classiques et des textes, et de la circulation des textes, et de la circulation des mouvements religieux. Alors, un fait notable qui est mentionné dans l'introduction de ce volume, c'est notamment Paul Pelliot qui, au début du XXe, en 1907-1908, découvre des quantités de textes dans des caves à Donghuang, dans la partie ouest de la Chine. Et au milieu de ces quantités de textes, trouve ces quelques feuillets du canon chrétien de Donghuang, dont les premiers textes du volume sont issus. Mais en réalité, tout au long du XXe siècle, en Chine, on a continué à faire des découvertes archéologiques qui modifient notre perspective ou notre compréhension des classiques. L'exemple le plus flagrant, c'est par exemple ce qui s'est passé avec le Tao Te Ching, où les découvertes des années 80 ont fait que, par exemple, dans la version qui a été publiée à la Pléiade il y a 2 ans, vous avez 2 versions du texte. La version traditionnelle, telle qu'elle a été transmise pendant plusieurs siècles, ou en tout cas une des versions traditionnelles, et puis vous avez une deuxième version issue des découvertes des années 80. Donc d'une certaine manière, ce volume illustre ce mouvement de revisite du passé à partir de découvertes archéologiques. Alors, pour situer l'impact de ces textes dans la tradition chinoise, alors là, ça va être assez rapide et assez peut-être décevant, comme le dit Alexis dans l'introduction, ces textes n'ont eu qu'un impact extrêmement marginal, voire ils n'ont quasiment pas été diffusés auprès du grand public, et pour plusieurs raisons, dont une raison importante, et comme le mentionne Alexis là dans l'introduction, c'est que des moines nestoriens sont arrivés à Xi'an, la capitale impériale, en 635, et puis ont obtenu un édit d'installation en 638, avec un petit monastère, une petite église, et puis voilà, on commençait à traduire des textes, et aujourd'hui on a encore des traces de ça. Cependant, en 845, un certain nombre de persécutions religieuses traversent la Chine, non d'abord dirigées contre ces moines, probablement d'abord dirigées contre les autres religions que la religion, voilà, contre le bouddhisme surtout, et ces moines venus de l'Ouest, donc avec parlant d'une transcendance ou d'une lumière, ce qui ressemble quand même beaucoup à des propos bouddhistes, ont probablement été pris dans ces persécutions. Ce qu'on décrit souvent comme une première phase du christianisme en Chine, la phase nestorienne ou syriaque, se terminerait en 845 avec des mouvements de persécution. Alors, ça, en fait, c'est pas très clair, parce que on continue à trouver des objets visiblement liés à un christianisme syriaque et datant plus de la dynastie mongole, donc 12e, 13e siècle. On a par exemple trouvé dans le Fujian ou à Pékin ou à Suzhou des plats avec des illustrations de la Vierge Marie, voilà, avec il y a aussi des tel ou tel monument où on aurait reconnu des croix. Quelle a été la survivance du christianisme nestorien en Chine, ça, c'est une question sur laquelle moi je suis pas capable de me prononcer, mais en tout cas, je pense qu'elle a été modeste, voire très modeste. Alors, ce qui s'est transmis ou ce qui a existé, par contre, c'est dans le monde mongol. Et ça, je m'appuie notamment sur les travaux de Marie Favreau, qui enseigne à la Sorbonne. Donc Marie Favreau, qui enseigne à la Sorbonne, qui a publié un ouvrage en 2023 sur la Horde, comment les Mongols ont changé le monde. Et dans cet ouvrage, elle rend compte de plusieurs découvertes qui sont, moi, à ma connaissance, relativement récentes. Tu me diras, John, ce que t'en penses. Sur la présence du christianisme dans différentes cours mongoles au XIIe, XIIIe, XIVe siècle, voire des convertis au nestorianisme dans les dynasties gouvernantes. Alors, un deuxième élément qui se produit au XIIe, XIIIe siècle, XIIIe siècle surtout, ce sont les missions des ordres mendiants, avec les noms bien connus. Le Guillaume de Rubruck et puis d'autres Jean de Plancarpin, Asselin de Lombardie, André de Longjumeau, plusieurs missions franciscaines, l'une ou l'autre dominicaine, qui vont être envoyées vers l'Est, notamment pour prévenir ou pour permettre une domestication des Mongols qui sont vus au XIIIe siècle comme une menace imminente sur l'Europe. Mais on est plutôt du côté mongol. Donc, deuxième phase d'entrée du christianisme en Chine, liée à ces missions franciscaines. Troisième phase de l'entrée du christianisme en Chine, celle dont on parle souvent, qui elle aussi en réalité est restée relativement périphérique dans le paysage chinois, c'est la phase jésuite, qui commence en 1582, un petit peu avant, en tout cas en 1582, Ruggieri, qui met les pieds sur le continent chinois par intermittence et puis progressivement peut s'installer dans un monastère bouddhiste en s'abriant comme un moine bouddhiste à Jiaoqin, dans le sud de la Chine, pas très loin de l'actuel canton. Cette phase jésuite, donc entre la phase franciscaine et la phase jésuite, il y a des échanges, notamment des échanges marchands, que ce soit par les marchands vénitiens et génois, dont le récit de Marco Polo se fait un écho lointain, ou que ce soit les marchands portugais qui cherchent une voie de contournement de l'Empire ottoman vers l'Asie. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent en Europe. La première image massive de la Chine en Europe, c'est une image portugaise, espagnole, qui va durer pendant pratiquement un siècle, jusqu'à l'arrivée des jésuites, donc 1582-1583. L'aventure jésuite, elle va durer en Chine un siècle et demi, et elle s'arrêtera au début du XVIIIe siècle pour plusieurs raisons. Une première raison, c'est la proscription du christianisme en Chine, en 1724, qui ne va pas amener à la disparition de la présence chrétienne, mais plutôt à un encadrement très serré, suivant des catégories juridiques très, très, très précises. Il y a un ouvrage qui est paru il y a un an là-dessus, sur la proscription de l'Amouroux, je crois. J'ai fait une recension pour le Revue Études, donc vous la retrouvez sur le site de la Revue Études. Donc une première raison, proscription du christianisme en Chine. Une deuxième raison, suppression de la compagnie. Une troisième raison, c'est un moment donné où les intérêts missionnaires deviennent plus nationaux que réellement missionnaires ou liés à des ordres religieux. Voilà. Donc, on rentre après dans ce qu'on a souvent appelé, ou de ce qui est souvent décrit comme le trou noir des échanges entre la Chine et l'Occident, en gros de 1724 aux guerres de l'opium. Et puis, de 1724 aux guerres de l'opium. Donc ça, c'est souvent une période qui est décrite comme un trou noir des échanges entre la Chine et l'Europe. Avec les guerres de l'opium, vont être réinstallées en Chine un certain nombre de missions, donc dont les missions jésuites et dont d'autres, et puis avec de nouveaux échanges. Alors, voilà pour un grand portrait historique. Ça va, Néotamine ? Ouais. Maintenant, je voudrais faire un commentaire méthodologique. Quand on évalue ces échanges entre la tradition chrétienne issue de l'Europe et puis le monde chinois, il y a plusieurs modèles possibles. Et ici, moi, je voudrais insister sur une chose dont ce volume rend compte, c'est que ces auteurs de textes, qu'ils soient des individus ou des communautés, ont une audience bien précise, à laquelle ils veulent faire passer un message. Alors moi, je ne travaille pas dans ce sens-là, je travaille en général plutôt dans le sens inverse, sur comment des jésuites ont présenté la tradition chinoise en latin au XVIIe, XVIIIe siècle. Et très souvent, un risque, quand on évalue ces textes d'échange, c'est de s'arrêter à un premier modèle d'évaluation, qui est un modèle de transmission. C'est-à-dire qu'on prend les textes et on se dit, est-ce que ces textes ont bien transmis le message chrétien ou le message des classiques chinois vers une langue d'arrivée. Et ça pourrait être un risque, en lisant ces textes, de se dire, est-ce qu'au fond, la foi chrétienne dont ils rendent compte est orthodoxe? Ce modèle d'évaluation par la transmission, à mon avis, est très limité. Et dans l'histoire, c'est souvent celui qui a été utilisé jusque dans les années 50 ou 60. Il y a un deuxième modèle, qui est de se placer du point de vue de la réception, et de dire, quelle audience ces textes ont eu dans la communauté d'accueil où ils ont circulé. Donc, et souvent, ce type d'approche, c'est typiquement l'approche de Jacques Gernet ou de Roger Hems, aboutit à l'incompréhension. C'est une approche qui dit, au fond, les traditions sont trop différentes, elles ne peuvent pas se rencontrer. Et ça pourrait être une manière de voir les choses, c'est de se dire, au fond, la mission syriaque en Chine, elle a débouché sur un échec, c'était des mondes trop différents pour qu'ils puissent se rencontrer, elle est restée périphérique. Et c'est comme ça que Jacques Gernet évalue aussi la mission jésuite en Chine. Ça, c'est un deuxième modèle, le modèle de la réception. Il y a un troisième modèle qui s'inspire plutôt de Michel Foucault ou d'Edward Said, qui est de l'invention, de dire quand des textes circulent d'une communauté à une autre, ils ne sont pas transmis, ils ne sont pas reçus, ils sont transformés. Et donc, c'est ce qui est nouveau, ce qui est créé dans ces textes qui est intéressant. Et là, on commence à avoir un modèle d'interprétation plus intéressant pour lire ce qui est présent dans ce volume. Où effectivement, un certain nombre d'hybridations, d'innovations, au fond, est-ce que ces textes sont d'abord bibliques de la tradition chrétienne, bouddhiste, quelle est l'influence, qui a l'influence de quoi? C'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Par contre, les nouveautés ou les trouvailles que ces textes permettent, ça c'est vraiment intéressant en les lisant. Et puis il y a un quatrième modèle qui est de se placer au niveau des agents. Les agents, ça veut dire les personnes qui ont circulé entre un monde et un autre. Et pour le coup, on peut se dire, est-ce que les personnes qui se sont exposées à des traditions différentes de la leur ont été transformées? Eh bien, à l'évidence, ces textes témoignent d'une certaine transformation de leurs auteurs. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant. Et peut-être ce qu'il y a à apprendre dans les essais transculturels comme celui-ci. Ce qui est créatif, ce qui se cherche, ce qui tâtonne. Alors, ça me permet de mettre en valeur quelques points d'intérêt dans ce que j'ai pu glaner, que tu as déjà en partie souligné, Michel. J'ai encore 2 minutes. Okay. Donc tout ce qui relève du souffle, l'insistance sur le souffle, qui dans la tradition chinoise est un élément, évidemment, le qi, qui est évidemment central, hein, quelle que soit l'école où on se situe. Ce qui relève aussi, alors une question que j'avais commencé à évoquer au repas, que je continue à adresser aux patrologues ou aux spécialistes de la patristique dans la salle, la présence massive de l'évangile de Matthieu comme corpus cité ou transcrit dans les textes. Et de même, moi, ce qui m'a frappé, c'est la présence de Romains, de différents textes de Romains, notamment Romains 12, et puis évidemment 1 Corinthiens 15, qui donne une dimension sotériologique très forte à certains passages. Donc, est-ce que c'est une habitude du christianisme nestorien ou syriaque ou pas? Quel rôle ça a? Voilà, ça m'intéresserait d'avoir une conversation là-dessus. Dernier point d'intérêt, à mon avis, c'est j'ai raisonné fortement au même texte que toi, Michel, là, ce cinquième texte, donc le livre de ceux qui cherchent la joie et la paix des mystiques, avec ces différents enseignements et cet enseignement sur la méditation, donc dont on a vu un extrait tout à l'heure. Alors j'avais prévu vous lire plusieurs passages de ça. Donc comme on a déjà fait, je vais pas insister. Donc médite sur ce monde qui passe. Je dois dire qu'à titre personnel, comme confucéen, c'est tout à fait insupportable et que je reste, à mes yeux, la force du confucianisme comme du christianisme, c'est d'insister sur l'engagement dans les relations humaines, dans le ici et maintenant de ce qui se joue à travers des corps individuels et sociaux. Je suis donc beaucoup plus difficile pour moi d'entrer dans ce « médite sur le monde qui passe et déconnecte-toi de ce qui s'y passe ». Voilà, on pourra y revenir.
Merci beaucoup Yves, hein, de nous avoir aidé à réfléchir sur les manières d'évaluer l'opération qui a été engagée par ces Chinois qui ont essayé de parler de la foi chrétienne en langue chinoise. Et sans plus attendre, je vais maintenant laisser la parole à John Lagerwey qui enseignait à l'École française d'école d'Extrême-Orient, qui a enseigné à Paris, à Taïwan, à Hong Kong, et qui est actuellement directeur de l'Institut Ricci. John Lagerwey est particulièrement connaisseur du taoïsme, mais aussi du bouddhisme, du confucianisme, et tout spécialement du taoïsme, notamment des rituels taoïstes auxquels il a consacré beaucoup de publications. Merci beaucoup, John. Je te laisse la parole.
Merci beaucoup, Michel. Je vais commencer par dire, on vient de faire un colloque à Taïwan qui était basé sur les approches croisées qu'on a fait avec Michel, notamment sur Dieu et le Tao. Et donc, ça m'a amené à faire une plongée dans les écrits, notamment des figuristes, donc ce groupe des jésuites du XVIIe, XVIIIe siècle qui avait chercher à prendre langue avec les aspects plus taoïsants, disons le Tao, les concepts de souffle, etc. Donc plus près de ce que j'étudie en tant que spécialiste du taoïsme que ce qu'ont fait les gens dans la mouvance de Ricci, qui était totalement du côté confucéen. Mais si je compare ces textes donc du 7e au 10e siècle avec ces textes des figuristes, ce qui me frappe, c'est à quel point le langage et l'interaction avec la culture chinoise dans ces textes est beaucoup plus naturel et moins complexé que celle des missionnaires jésuites de cette période du 17e, 18e siècle. Je pense que au XVIIe siècle, il y avait une très très grande rigidité doctrinale, idéologique même, qui les ont amenés, y compris des figuristes qui ont donc quand même voulu mettre en lien avec le Tao et le développement de comparaison entre Dieu et Tao, mais leur présupposé théorique. Ce qu'on appelle Prisca Theologia, Kabbale, Aristote, tout cela fait que il y a tellement de dissonance en fait dans leur découverte, tentative de synchronisation, par exemple des chronologies de la Bible et de la Chine qui sont délirants. Hein? Bon, délirants. Tandis que dans ces textes-ci, on voit un rapport vraiment très naturel avec d'inculturation, avec Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire d'emblée. Et ensuite, je voudrais donner quelques signes clairs de cette inculturation et ces dimensions confucéennes, bouddhistes et taoïstes, principalement taoïstes, mais je vais commencer quand même par l'élément confucéen, parce que c'est une illustration de la différence dramatique entre les traditions bibliques et les traditions chinoises. Il y a donc dans le livre du Messie, page 167, « Il faut craindre l'empereur comme on craint le vénérable céleste. car les vies précédentes de l'empereur l'ont secrètement béni. Dans cette idée déjà de vie précédente de l'empereur, d'une part, ça pourrait être confucien, ça pourrait aussi être inspiré d'inspiration bouddhiste, des idées de karma, etc. Mais bon, donc déjà, ils en annoncent la couleur, à savoir le rôle central de l'empereur dans cette vision inculturée. Ensuite, dans le livre de ceux qui cherchent la joie que Michel aussi et la paix des mystiques, page 315, « Si tu en fais revenir certains au texte de ce livre qui transmet mon enseignement, tu dois savoir que ces hommes bénéficient des bons conditionnements qui furent d'abord obtenus par leurs parents et leurs ancêtres, donc plus dans la tradition confucéenne, des nombreuses générations passées. » Simon Pierre, si vous pouvez ainsi m'interroger sur la recherche des meilleures méthodes, c'est bien que vos parents et vos ancêtres ont accumulé un bien incalculable qu'ils vous ont transmis. Donc, adaptation aussi bien au culte des ancêtres qu'au, je dirais, culte de l'empereur. Et Alexis Balmont, dans son introduction à la stèle de Xi'an, à la page 207, met les points sur les i. Le trait confucéen le plus évident du texte est le rôle accordé aux empereurs chinois. L'auteur considère les souverains comme des intermédiaires légitimes entre le ciel et la terre, car ils sont investis de la mission divine de commander les vivants selon les principes confucéens du juste gouvernement. Les termes qui désignent les empereurs sont empruntés au champ lexical du sacré, le souverain et le saint, le firmament ou le ciel. Son portrait est appelé une sainte relique qui illumine le monde. Et puis à la page 209, il résume « La séparation des pouvoirs temporels et spirituels ne paraît pas clairement exprimée par l'auteur. Elle n'est en tout cas jamais décrite comme conflictuelle, contrairement au récit biblique qui nomme sans embâge les péchés des rois d'Israël. Les fautes des souverains chinois ne sont pas explicitement dénoncées. » Voilà, donc cet élément... qui m'a amené à rédiger un livre que j'ai appelé China, a Religious State. Pourquoi? Parce que la politique est d'emblée religieuse et il n'y a pas de séparation possible. D'ailleurs, c'est banni du vocabulaire actuel par Xi Jinping, la notion de séparation de pouvoir. Bon, donc ça, c'est une première signe clair de cette inculturation. Sur le bouddhisme, il y a beaucoup de choses que l'on pourrait dire. Dans le livre des Vénérables que tu as évoqué, Michel, il y a un rite qui s'appelle Jingli, c'est-à-dire avec respect, rendre hommage à, d'abord aux trois corps, qui n'ont pas les mêmes noms que les trois corps de Trikaya bouddhique, mais quand même, la notion de trois corps. Ensuite, le livre de la religion lumineuse du Grand Occident, de celui qui révèle le principe parfait de l'origine première, je ne vais pas m'attarder dessus, mais si vous lisez à la page 259 le début de cet ouvrage, vous verrez que ça commence exactement comme un sutra bouddhique révélé et se termine à la fin, à la page 269, quand le prince de la loi Jingtong finit son discours, tous le méditèrent et parvinrent à l'éveil. C'est la fin d'un sutra bouddhique tout à fait typique. Bon, donc ça, ce sera pour les éléments confucéens et bouddhiques. Maintenant, d'ordre plus culturel, si l'on veut, à la page 61, il y a... c'est dans le discours sur le Dieu unique, car nous savons, donc c'est ces arguments pour l'existence de Dieu, par lequel commence Yishenlun, ce discours sur le Dieu unique. Car nous savons que le ciel se tient sans appui. Or, il n'y a ni poteau, ni poutre pour le supporter. Nous savons que rien ne peut se tenir sans appui. Nous savons donc que c'est la puissance de Dieu qui agit. Bon, c'est un argument que je ne crois pas qu'on rencontrerait en Occident, mais dans le contexte de la Chine, il faut savoir qu'il y a cette notion que le ciel est soutenu par quatre piliers, n'est-ce pas? Donc, il a absorbé cette mythologie ambiante et l'a incorporé dans son discours, pour sa volonté de prouver l'existence de Dieu comme tout-puissant. Et de même, dans ce même livre, Discours sur le Dieu unique, il y a une distinction qui, que l'on trouve évidemment aussi chez les patristiques, peut-être moins dans la Bible elle-même, mais qui est absolument essentielle pour comprendre quoi que ce soit en Chine, la distinction entre le visible et l'invisible. Et donc, je lis un passage encore du discours. De même que l'âme invisible habite le corps de l'homme, de même Dieu habite l'univers. De même que l'âme ne peut être perçue visiblement, de même il y a un monde invisible. Page 67, le Vénérable Céleste a fait le rien du monde, le Dieu du Vénérable Céleste, c'est le monde qui est composé de l'existant qui est visible et du rien qui est invisible. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette traduction. Il cache un peu d'abord cette distinction ici entre le « wu » et le « yo », c'est-à-dire le rien et le fait qu'il y ait quelque chose qui existe, qui est essentiel pour... comme complémentarité dans le Tao Te Ching. Donc, en fait, c'est une première présence visible de son interaction avec le taoïsme. Alors, donc, visible, invisible. J'ai déjà évoqué l'autre élément de respect des livres. Donc, lorsqu'il cite un certain nombre de titres de livres, ça aussi, c'est intéressant, parce que même si on a un canon biblique, hébraïque et grec, l'idée de faire un culte, de rendre un culte ou un rite spécifique pour saluer les livres, pour moi, c'est profondément taoïste aussi. On voit des textes sur le cheminement de Lao Jun, par exemple, où il reçoit une série de livres et puis il dit le simple fait de les posséder et de leur rendre un culte, c'est ça qui peut conduire à l'immortalité. Donc ce culte du livre, qui de toute façon est très chinois, mais très spécifiquement taoïste aussi. Et quelque chose de cocasse, c'est... attendez voir, c'est page 99, voilà, ça c'est donc dans, toujours dans ce même discours sur le Dieu unique. Alors vous reconnaîtrez, c'est seulement ainsi qu'il faut faire l'aumône, que ta main droite ignore ce que donne ta main gauche. Alors c'est le contraire en Chine, n'est-ce pas? Parce que c'est la main gauche qui est la main yang, la main droite. Donc on a inversé les... Bon, donc c'est là aussi un signe de l'inculturation. Il fait une traduction dans les termes que les Chinois, qui sont familiers aux Chinois. Donc c'est un peu amusant. Alors, une dernière chose qui est, je dirais, d'ordre général, sans vraiment entrer dans le détail à propos du taoïsme, c'est ce que j'appelle un style littéraire d'engendrement métonymique. À la page 304, vous comprendrez ce que je veux dire par là. Ici, je n'ai pas le texte en français, mais c'est pas grave, je parle du chinois. Celui qui veut pratiquer la voie suprême, donc le Tao suprême, il parle du christianisme, évidemment, il doit d'abord évacuer complètement le dong et le yu. Ces deux termes qui viennent tout droit du taoïsme, du premier chapitre, même du Tao Te Ching, que le dong, c'est-à-dire le mouvement par opposition au jing, la tranquillité, ce sont donc une activité yang, masculine, qui est à intégrer dans la tranquillité. Il faut mettre la tranquillité et donc le wu, c'est-à-dire le rien qui n'est pas rien, mais qui est signe du fait que celui qui veut avancer se vide constamment et a, comme on dit, une vision sur le monde. Il est comme un miroir qui ne fait que refléter de façon très neutre. Bon, donc c'est ce jeu entre le wu et le yo que j'ai déjà évoqué. Donc, il doit d'abord commencer par extirper de lui-même, littéralement déraciner, tout ce qui est activité et désir. Une fois que l'on est wu, donc intervient justement ce terme de wu, qui à mon sens est plus taoïste que bouddhiste, parce que c'est la négation donc de l'activité, la négation ou l'absence d'activité, de mouvement, l'absence de désir, alors on ne cherchera plus à faire le non-agir. Donc, il faut déboucher sur le non-agir. C'est d'une plus grande valeur que l'agir, l'activité, mais il ne faut pas le chercher. Une fois que l'on ne cherche plus, donc là, nous, de nouveau, le mot « wu », et que l'on ne cherche plus à être « wu wei », donc terme absolument central dans le taoïsme, alors on deviendra « qing » et « jing ». « Qing », c'est pur, et « jing », c'est complètement... Oui, en fait, il y a un texte si célèbre dans les canons taoïstes qui s'appelle « Chang Qing Jing », que même Zhuxi l'a commenté. Bon, ces deux caractères, c'est justement ces deux caractères que l'on trouve ici. Bon, donc, le fait de ne pas avoir le désir d'être Wu Wei nous permet de se purifier. Alors, une fois que l'on est capable d'être parfaitement pur, alors on peut s'éveiller et expérimenter la réussite de la pratique spirituelle. Une fois que l'on a fait ça, vous voyez comment ça s'enchaîne. Donc chaque fois, on débouche sur ce que cela donne, et ensuite, sur ce nouveau tremplin, on part à l'étape suivante. C'est un style de ce que j'appelle engendrement métonymique, qui est tout à fait typique de beaucoup de textes de la philosophie pré-Chine, par exemple, mais qui continue. Alors, une fois donc l'on est arrivé à cet éveil et à cette preuve de l'efficacité de la méthode, alors on pourrait illuminer comme un miroir ou comme le soleil tout l'environnement. Et une fois que l'on arrive à là, à ça, à ce résultat, alors enfin on arriverait à la capacité de Hanle. D'atteindre donc cet état de paix et de joie. Donc c'est cette façon de raisonner là aussi qui est vraiment une preuve vraiment fondamentale de cette intégration, de cette inculturation. Alors j'ai déjà donc évoqué ce Qing Jing. Et il y a plusieurs textes. Notamment pour ceux qui prennent des notes, la page 294, par exemple. Je vais lire ici ce qu'en dit plutôt Balmont à propos de ce livre de ceux qui cherchent la joie et la paix des mystiques. Et ici, il y a des éléments taoïstes, mais généralement chinois. Donc, page 285, il dit « L'homme est pourtant reconnu comme fondamentalement bon. » Ce qui n'est pas vraiment le cas dans la majeure partie de la tradition chrétienne. « Il est comparé à une source pure, troublée par de la vase et des saletés, tout ça ce sont des citations, un clair miroir qui peut refléter la lumière. » Et implicitement, ces images supposent que ce qui salit et pervertit l'homme lui reste étranger et superficiel. Le Messie replace chacun devant sa part sacrée, nommant sans ambiguïté ce qui blesse la racine de son être pour l'encourager à prendre les moyens de se libérer de ce qui la déforme et le salit et travailler à devenir ce qu'il est. Je trouve cette formule-là parfaite. Ça représente vraiment exactement la vision taoïste de ce que c'est que de devenir un zhenren, un homme parfait, c'est de réaliser que l'on est, et le terme qu'il emploie dans le texte chinois, c'est le jinxing, c'est-à-dire la véritable nature, qu'il est décrit ici comme qingjing à nouveau, donc qingjing, jinxing. Il y a d'autres façons dans d'autres textes. Il dit par exemple quelque part, cette purification initiale permet de fansu, fan, c'est peut-être le mot le plus important dans le Tao Te Ching, de toujours faire un mouvement de retour. C'est-à-dire que dès que l'on est justement dans le monde de l'activité et du désir et du pouvoir, il faut savoir revenir à l'état de tranquillité, revenir à l'état sans désir. Et le mot sou, ça veut dire la soie est crue, et c'est l'un des deux termes que l'on emploie pour dire ce qui est naturel, qui n'a pas été entamé par le monde extérieur. Donc, c'est le soie cru d'une part, et puis le bois brut qui n'a pas encore été taillé en vaisseau d'autre part. Et donc, Balmont résume donc cette attitude qui, je pense, que l'on peut qualifier de chinois dans son ensemble, mais qui est peut-être pratiqué avec le plus de cohérence et de rigueur par les taoïstes et éventuellement les bouddhistes, mais les taoïstes plus particulièrement. Le livre enseigne le primat absolu de la vie intérieure. Ça, c'est un très, très beau résumé de ce qu'est le taoïsme. C'est en se retirant en lui-même, en se laissant éclairer et parfaire dans le calme, en fait on retrouve là les Qing et le Jing, en habitant le silence de son cœur tranquille, que l'homme se dispose à recevoir les biens les meilleurs. Et à un moment donné, tu l'as déjà cité, c'est à la page 310, la version en chinois, tu as cité la page de la traduction. C'est pourquoi je vous dis, soyez sans désir, sans activité, sans vertu, sans témoignage, sans preuve de réussite. Donc, une série de quatre, n'ayez pas cela. Pourquoi? Parce qu'il faut être vide pour pouvoir être rempli. Et il y a un passage, je vais peut-être terminer par ça, si j'arrive à retrouver... le passage, oui, donc c'est toujours dans le discours sur le Dieu unique, il y a toute une série d'adjectifs pour dire Dieu. Dieu est sage, chien, saint, chen, lucide, bienveillant, spontané, zelan. Ah, donc ça, on a un terme clé taoïste, immuable et calme, ça c'est plutôt bouddhiste, changding. Mais alors c'est la phrase suivante qui est pour moi la plus intéressante. Il est parfaitement équilibré, et la traduction, mais le chinois c'est wu kui, wu ying, qui décrit en fait les phases de la lune. Il est ni en décroissance ni en pleine lune, et donc évoque l'activité lunaire. Et ce qui est intéressant, c'est que à la page 264 dans le livre de la religion lumineuse du Grand Occident de celui qui révéla le principe parfait de l'origine première, il évoque exactement cette même idée. En ce sens, le Créateur, je reviendrai sur ce terme de Créateur, fut capable de transformer toute chose sans lui-même ne se transformer. Aucunement. Donc, comme le Tao, il ne change pas. Tout le reste change, mais le Tao lui-même, il est peut-être l'incarnation de changement, mais le changement structuré, mais le Tao en lui-même ne change pas. Donc, les transformations sont des changements. Mais le Créateur qui les commande est en revanche lui seul sans défaut et sans excès. Donc exactement ces mêmes termes, wu kui, bu kui, bu ying, ni déficient ni rempli. Ah. Et alors c'est par là donc que je terminerai. Quel est le mot employé pour Créateur? En chinois, c'est jiangdi, c'est-à-dire souverain, artisan. Le terme qui serait utilisé, ce serait Zhaouzhe, comme on trouve dans le Confucius, mais donc là, apparemment, qu'ils ont créé un terme, et il apparaît dans plusieurs textes, Jiangdi, le créateur artisan. Voilà. Bon, j'ai terminé. Merci.
Voilà. Grand merci de nous avoir aider à réaliser davantage à quel point il y a un travail très audacieux, très très vigoureux d'inculturation, avec cette intégration, de cette reprise de mots, d'expressions qu'on trouve effectivement dans les différentes traditions religieuses de la Chine. Voilà, nous disposons maintenant d'un temps qui va nous permettre de poursuivre la réflexion grâce à des réactions, des questions que vous pourrez poser. Donc, je proposerais volontiers que l'on commence par entendre deux ou trois questions ici dans cette salle, puis peut-être ensuite il y aura une autre question de la part de personnes qui sont distancielles. Oui. Oui, donc une première question tout au fond. Oui. Pardon, je suis pas sûr d'avoir tout.
Je pense. La question porte, si j'ai bien compris, principalement sur quel est le rapport entre le manichéisme et. Mais je pense que c'est un peu hors sujet pour aujourd'hui, hein, parce que dans ces textes-là que l'on a lu ensemble, il n'y a pas de manichéisme.
Merci. Donc une autre question, peut-être. Pendant que vous réfléchissez, je poserai une petite question. Ah, pardon, il y a une question là-bas.
Oui, merci beaucoup pour votre présentation de ces textes. Ma question serait, est-ce qu'on pourrait faire une comparaison avec aujourd'hui et justement le syncrétisme qu'on trouve parfois entre le bouddhisme et le christianisme? Voilà,
donc la question, c'est, est-ce qu'on pourrait faire des parallèles, des comparaisons avec la situation contemporaine où il y a parfois des formes de syncrétisme entre le bouddhisme et le christianisme, c'est ça la question.
C'est-à-dire que la finale de John, je trouve que le fait que tu sois venu sur la notion de créateur est très très important, parce que alors on peut discuter de ça, il y a des théologiens ici, je trouve que c'est quand même un élément de la tradition biblique assez central, le couple créateur-créature. Et y compris pour des pratiques contemporaines, un critère qu'on peut toujours garder en tête, par exemple quand des chrétiens pratiquent la méditation de Chan ou d'autres pratiques proches du bouddhisme, ça reste un critère qu'on peut avoir en tête, c'est-à-dire est-ce que la pratique que je mets en œuvre ou que j'emprunte à diverses traditions, y compris on pourrait dire à l'Antiquité, favorise ou vient voiler une relation créateur-créature? Et du coup, c'est quand même assez frappant que dans ces textes, les termes qui sont utilisés pour parler de créateur-créature ont été créés et ont été inventés. Et ça, il y a un passage, je crois que c'est dans le premier texte sur le Dieu unique qui m'a frappé aussi, il y a un paragraphe qui est très proche du paragraphe 42 du Tao Te Ching, qu'on décrit souvent comme le récit de la Genèse taoïste, sauf que c'est pas le texte du Tao Te Ching exactement, ce sont d'autres vocabulaires. La mécanique du texte, la structure du texte fait penser au Tao Te Ching, mais le vocabulaire utilisé pour dire créateur n'est pas le vocabulaire du Tao Te Ching. Donc, quand on parle de que ce soit au plan contemporain ou au plan passé, je trouve que ce critère de est-ce que le couple créateur-créature est présent et comment reste un lieu de rencontre et un lieu de différenciation intéressant. Voilà. Ça répond pas exactement, mais c'est une manière de.
Moi, je dirais simplement que, personnellement, pour moi, le mot syncrétisme est un mot que je bannis autant que le mot superstition. Ça ne veut rien dire. C'est un mot péjoratif qui décrit des personnes avec lesquelles on n'est pas d'accord et laisse entendre que une incohérence de fond. Donc, en tout cas, par rapport au texte que nous lisons, par rapport à nos propres vies, je pense que on cherche toujours à valider en fonction de cette cohérence. Cohérence avec la tradition dont on est issu, si on y est attaché, tradition avec cohérence avec les traditions que l'on rencontre et qui nous transforment en nous élargissant.
On peut s'entendre une question.
Une question d'un auditeur par Zoom. Il y en a même deux. Il me semble qu'il y a un lien qui peut être fait entre l'appellation du Grand Occident et des terres de l'Ouest, directement pensées comme un paradis terrestre dans le courant Chan. Serait-il possible d'avoir une explication sur le terme Grand Occident abordé dans la diapositive de la stèle de Xian? Et puis, il y a aussi une question qui consiste davantage en une ouverture. Alopen et Xuanzang ont tous deux côtoyé Taizong. Ils étaient contemporains au sein de Shang'an et ont employé les mêmes tronçons de la route de la soie du Nord. Peut-on imaginer une relation entre les deux, une influence? Je n'ai pas compris la question.
Pour la deuxième question, je me souviens, en fait, c'est Alexis Balmont qui traite de ces deux problèmes. Je me souviens plus ce qu'il a dit, mais de Dachin, tu l'as, la page, tu le liras après. Mais à propos de, justement, de Xuanzang, je m'en rappelle plus le détail, mais il décrit justement l'un des, je pense que c'est le début même de la stèle de Xi'an, où il dit, on a l'impression qu'ils en ont profité de, cette célébrité de Xuanzang pour présenter l'arrivée de ce Alorben de la même manière, introduit à la cour de la même manière, quelque chose comme ça.
Oui, parce que dans l'introduction, c'est abordé page 12, et donc c'est lié à des parce que là aussi une grande tradition chinoise, c'est de classer les mouvements religieux, de les inscrire dans un registre, et donc de ce que Alexis explique, et puis voilà, c'est une question de classification qui a changé à la cour, et d'un vocabulaire qui a été attribué vous venez de l'Ouest, vous êtes dans telle catégorie, quoi. C'est en gros, c'est ça. Mais page 12, il y a toute l'explication de. Ouais.
Je me donne la parole moi-même. Je poserais bien deux petites questions. La première, bon, je disais tout à l'heure que la stèle, enfin l'inscription en ce qui en fout était, enfin reflétait, dans l'inscription, il y a la description d'une communauté monastique. Alors, une première question, est-ce qu'on sait aujourd'hui si est-ce que c'était au fond la seule forme de christianisme en Chine à cette époque, la vie monastique, ou s'il y avait d'autres formes de vie chrétienne dans la Chine à cette époque-là? Est-ce qu'on a des indices pour répondre à cette question? Et puis, ma deuxième question, qui est d'un tout autre ordre, j'étais quand même très très frappé par cette insistance sur des termes, des expressions comme non-désir, non-agir, bon, qui sont très très parlantes évidemment, si on se rappelle les vérités dans le bouddhisme, les quatre vérités, etc. Pourrait-on, jusqu'à quel point pourrait-on mettre cela en rapport avec ce qui est dit par certains auteurs chrétiens sur l'apatheia, je pense surtout à Clément d'Alexandrie, hein, au livre 6 du Stromate, ou bien est-ce qu'il faut penser que ce non-désir dont il est question ici est encore plus radical que ce que les pères de l'Église entendaient par apatheia?
Non, parce que sur la question d'une présence chrétienne non monastique, je suis pas capable de te répondre scientifiquement, Michel. Après, comme c'est une présence qui dure quand même de 635 à 845, de manière relativement probable, bon, ça veut dire qu'il y a quand même eu des communautés relativement larges, larges, en tout cas plus larges que peut-être juste un monastère. même si à mon avis c'est pas des grands nombres. Je crois qu'on parlait de 20 personnes pour le, ou 20 ou 30 personnes pour le monastère d'Ossine.
Ce que je voulais peut-être dire d'abord, c'est pas des chrétiens, je ne sais pas s'il y avait d'autres formes que la forme monastique, très certainement parmi les commerçants, parce que s'il y avait une relation des Syriaques, c'était une relation de commerçants au départ, qui était donc desservie par ce monastère, les moines de ce monastère. Mais dans le taoïsme, la formule monachique a toujours été minoritaire, très très largement minoritaire. Donc ça, c'est la première chose pour le contexte pratique religieuse en Chine. Il y avait autre chose que je voulais dire. Ah oui, c'est que je pense que il y a une formule dans le premier chapitre du Tao Te Ching qui est très très important pour comprendre, pour répondre à cette question par rapport au taoïsme. C'est que ils disent Chang Yu Yu Yi Jian Qi Jiao, Chang Wu Yu Yi Jian Qi Miao. C'est-à-dire que toujours avoir du désir, donc ce mot yo et u, avoir du désir afin de voir sa manifestation, voir, c'est-à-dire le comprendre. Et ensuite, chang ou u, donc ou, sans, toujours sans désir, yi jian qi miao, afin de, d'en comprendre le mystère. Et c'est donc, quand on parle de fansu, faire retour à la soie écrue, ça veut dire toujours dans cette alternance, comme l'alternance des saisons, qui sont d'abord une moitié de l'année yang, ensuite la moitié de l'année yin, et il y a des comportements même politiques qui sont déterminés en fonction de ça. Au printemps, on ne tue pas, par exemple, c'est l'État qui ne peut pas effectuer des punitions. Pendant ce... Donc, de même qu'il y a cette alternance yang et yin, ou yin et yang dans les saisons, il doit y avoir dans la vie humaine cette alternance, mais où le vide prédomine, la neutralité prédomine, afin qu'on puisse être rempli, recevoir l'autre ou recevoir l'environnement dans le paysage, etc. Donc c'est à la fois très radical et très équilibré.
Autre question ? Oui, Alain Le Bluac.
La notion de désir soit très éloignée de la notion de péché. Enfin, vous avez parlé de souillure, je crois, mais est-ce qu'il y a une autre question qui est liée à celle-là? Est-ce qu'on a, dans ces textes-là, est-ce qu'on a des traces de rites baptismales, par exemple? Ou est-ce qu'il y a des rites de purification, de libération des fautes ou...
Alors, je répète les questions. Pardon, c'est pas. Oui, je répète les deux questions hein, pour ceux qui sont distanciels. Donc, d'une part, est-ce que désir est lié à péché, hein, c'est ça, dans cette perspective. Et puis, d'autre part, est-ce qu'on a des indices, est-ce qu'on a l'évocation de rite baptismal dans l'un ou l'autre de ces textes?
Je me souviens plus exactement où il évoque. Mais il y a une phrase que j'avais marquée quelque part que je retrouve pas là actuellement, mais où il dit tous les 7 jours on fait l'Eucharistie et c'est précédé par un shishin, un lavage du cœur. Et je crois que c'est là que Balmont suggère qu'il y a aussi là une référence au baptême. Mais en tout cas, il me semble bien qu'il évoque.
Une question pour de Boétien. Se laisser éclairer, se laisser remplir, mais de quoi et par qui? Autrement dit, est-ce qu'il y a un vocabulaire de la grâce qui existe dans ces textes que vous avez lus pour nous?
Je pense que
je vais redire la question. Donc, est-ce qu'il y a un équivalent d'un vocabulaire de la grâce dans l'un l'autre de ces textes hein? Je ne sais pas, moi, pour avoir lu simplement une fois le volume, et sans être sinologue, je le redis, il m'a semblé qu'il y avait quand même une grande insistance sur la responsabilité de l'être humain, à travers beaucoup de ces textes. Alors, est-ce que ça exclut pour autant un don, enfin l'accueil d'un don, pas forcément, mais en tout cas c'est ça qui frappe au premier abord quand on lit ces textes.
Et puis il y a dans le livre sur le Messie, il parle très très clairement du Messie qui est descendu du ciel, qui a accepté l'humiliation totale afin de sauver l'humanité de ses péchés et de les ramener sur la voie.
Oui, ce que tu as aussi, tu as un certain nombre de passages sur l'Esprit Saint. Qui est présenté, qui est introduit, mais de fait, la dimension de grâce ou sotériologique, elle vient souvent avec le Christ, avec la figure du Christ.
Oui, je redis pour ceux qui sont distanciels, donc il y a effectivement une entrée baptême dans l'index à la fin du volume. Et pour la grâce aussi, je crois. Oui.
Je rajouterais, vous avez évoqué la souillure. Je pense que la souillure telle qu'elle est évoquée dans le texte chinois n'a rien à voir avec notre notion de... Ouais. À propos du vide, je continue la même phrase que... tout à l'heure où on trouve le Créateur. Donc, il est lui seul sans défaut et sans excès. Ça, c'est la phrase ni déficient ni remplie. Et ensuite, sans pollution qu'il faudrait purifier. Ça, c'est une paraphrase, pas une traduction, mais le terme utilisé en chinois, c'est ni turbide ni pur, qui sont deux termes utilisés pour la séparation des souffles à l'origine de la création de l'espace, de l'univers. Les souffles purs, éthérés, montent pour faire le ciel. Les souffles lourds descendent pour faire la terre. Donc Dieu n'est ni l'un ni l'autre. Donc c'est une façon aussi de la distinguer, justement, de sa création. Mais il se maintient dans le véritable vide. Le Jen Kong, qui pourrait être bouddhiste aussi bien que taoïste, sans jamais changer. Donc c'est comme ça qu'est décrit le Dieu Père par opposition au Messie, donc qui descend, subit l'humiliation, etc.
Alors, je crois qu'il y avait donc une question au fond, puis une question au deuxième rang. Donc, au
fond, oui, une question par rapport au... On a parlé du Messie. Est-ce qu'il y avait une idée du... Comme on avait au christianisme, d'une idée du Christ qui accomplit une attente messianique. Est-ce que il y a une base un peu dans le taoïsme ou dans le bouddhisme d'une personne qui pouvait venir, qui viendrait, et du coup le Christ, le Messie répondrait à cette attente aussi dans le bouddhisme ou dans le taoïsme. Et une autre question, est-ce que il s'appuyait également sur des écritures juives de l'Ancien Testament éventuellement pour aborder ces questions-là, pour aborder le Messie, le Christ qui viendrait, ou est-ce que c'était pas des écrits qui étaient connus en Chine?
Voilà, donc une question, est-ce que à travers le lot des textes, on voit que le Messie est présenté comme accomplissant une attente, c'est ça la première question, peut-être commencer par là. On écoute aussi votre question.
Oui. Merci. Oui, merci beaucoup, infiniment. D'abord, c'est jubilant, les textes sont jubilants. Je voudrais vous poser une question sur comment ça se passait dans ces communautés-là. Est-ce qu'il y avait une exclusion par rapport dans la communauté? J'avais fait des recherches et il y avait sous la dynastie Tang encore des tombes avec visiblement une union mixte de couples. Est-ce que c'était tolérant vers les autres ou très fermé? Merci.
Voilà, est-ce qu'il y avait exclusion ou pas?
Aucune idée.
Je ne suis pas capable de vous faire une réponse scientifique.
Peut-être on peut venir sur la question, la première question qui était posée tout à l'heure. Hein, est-ce qu'il y a...
Oui, à propos de, du Messie, oui, il y a de très célèbres passages sur Li Hong, qui est décrit comme le Messie à venir dans le cadre taoïste. Et évidemment, dans le bouddhisme, il y a le Maitreya, n'est-ce pas, le mille fois celui qui viendra à, comme dans le, l'ère nouvelle. Donc, et il se trouve qu'au milieu du 7e siècle, justement, l'impératrice Wu Zetian nomme son premier fils Li Hong. Il est mort jeune, mais justement, il lui a donné ce nom du Messie attendu taoïste. Donc, dans le milieu où il se trouvait, il y avait très certainement, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils emploient une transcription pour dire le Messie. Ils disent, ils ne le traduisent pas.
Par rapport au... Emmanuel, moi je réagis par rapport au monde confucéen. Alors, si on pense le Messie comme quelqu'un qui obéit à des écritures ou qui interprète aux trois sens du terme un premier canon des écritures, alors là, oui, dans le monde confucéen, on a des figures de personnages qui interprètent aux différents sens du terme des canons des écritures. Mais on n'est pas tout à fait dans le même positionnement du Messie que celui que tu évoquais.
Voilà. C'était encore une dernière question, peut-être. Oui. Oui. Bon, allez-y.
Il a peut-être rien à voir, je ne sais pas, mais quelle est la notion de, comment la notion de péché se manifeste chez les Chinois?
Comment la notion de péché se manifeste chez les Chinois?
Comme en Occident, c'est une longue histoire. Et donc, il faudrait faire un cours sur toute l'histoire de 3000 ans de Chinois. Je préciserai simplement que, disons, dans la fin de l'ère impériale, aussi bien l'élite que dans la population, on leur apprenait à faire des listes, de faire une méditation à la fin de chaque journée sur ce qu'ils avaient fait de bien et ce qu'ils avaient fait de mal, et cela selon des critères très très bien définis. Dans le bouddhisme, il y avait une liste de moins peu plus 250 pas interdit, mais commandements qui devaient respecter dans la communauté monachique. Et régulièrement, tout cela devait être lu, et puis les confessions qui devaient s'en suivre si quelqu'un avait... Enfin, donc, certainement qu'il y avait une notion très très précise du péché qui ne rejoint peut-être, qui recouvre peut-être pas complètement une notion chrétienne ou biblique, mais qui quand même est très très présent.
Oui, c'est-à-dire que là-dessus, si vous pensez le péché comme une attitude qui, ou quelque chose qui s'inscrit dans le cadre d'une relation créateur-créature, bon, ben, on n'est pas d'emblée dans ce couple-là. Voilà. Après, des réflexions sur l'intention, les fautes morales, les émotions, la cultivation des émotions. Alors là, oui.
Je dirais quand même plus loin que ça, parce que la notion de Zeran, c'est justement un rapport à l'environnement. Et donc, phrase justement dans Lao Tzu, l'homme se modèle sur la terre sur le ciel sur le Dao, et le Dao sur ce qui est ainsi, le Zeran. Et donc, cette notion de naturel comporte de perte de cette... Et c'est pour ça d'ailleurs que l'idée que l'homme est bon dans son institution, dans son origine, et que c'est cette bonté originale, qui est une bonté de compassion, caractérisée par compassion, doit être retrouvée par ce retour vers la vie intérieure.
Alors, on va écouter une toute dernière question avant d'aborder la dernière partie de notre soirée.
Voilà, qui vient de Zoom, qui rejoint la question sur le Messie. Hein. Les textes parlent-ils de la mort et de la résurrection du Christ ?
Les textes parlent-ils de la mort et de la résurrection du Christ? Bien oui, en tout cas j'ai lu des choses dans le volume.
Oui. Notamment dans la l'hymne que tu as cité. Hein. Je pense que c'est la Gloria, et donc forcément il y a évocation de la mort et de la résurrection. Oui.
Voilà, on va s'en tenir là pour cette première partie, la plus longue de notre soirée. Je voudrais dire, en clôturant cette première phase de notre soirée, que à travers ce très très beau volume, vraiment reconnaissant aux éditions de Cerf de l'avoir publié, je le redis, comme je le disais tout à l'heure en début de soirée, à travers cela, bien c'est une page très importante de l'histoire du christianisme qui nous est restituée, et finalement émouvante, hein, puisque ça a duré 2 siècles, 3 siècles, et après il y a eu les persécutions, il a fallu attendre le 13e siècle, puis le 16e siècle. Et d'autre part, ce n'est pas seulement une page d'histoire très importante, mais à travers cela, eh bien, ce volume nous met en présence d'une question qui reste fondamentale aujourd'hui comme hier, c'est-à-dire comment penser la rencontre du christianisme avec des cultures, avec des traditions, et pas simplement autour du bassin méditerranéen, mais loin du bassin méditerranéen. Je crois que c'est ça qui était en jeu, finalement, à travers cette première diffusion du christianisme en Chine, et nous sommes aujourd'hui confrontés dans les divers pays qui sont les nôtres, dans les divers continents, à des questions tout à fait analogues et qui sont vraiment un lieu de réflexion théologique très important aujourd'hui. En tout cas, je tiens à remercier à nouveau John Lagrevé et Yves Vendée pour leurs interventions. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous aider à entrer dans la connaissance de ces volumes. Et donc, j'invite maintenant Guillaume Badi, Dominique Gonnet, venir de Strade. Donc, comme les années précédentes, nous allons avoir la chance d'avoir un écho des autres publications de sources chrétiennes, nombreuses publications de sources chrétiennes au cours de cette année 2025. Alors, avant ou après, je ne sais pas, Dominique Gonnet dira aussi un petit mot, je crois, peut-être à la fin, comme secrétaire de l'Association des Amis de sources chrétiennes. Guillaume, merci beaucoup.
Eh bien, c'est plutôt nous qui remercions les facultés Loyola et en particulier toi, Michel Fédou, pour cet accueil annuel et cette occasion extraordinaire que nous avons de présenter nos publications. Et comme à chaque fois, je dois dire que je ne fais que représenter toute une équipe CNRS en particulier, dans le cadre du laboratoire Isoma, en lien avec une association dont Dominique Gonnet parlera dans un instant, et voilà, en partenariat avec les éditions du CERF pour la publication depuis plus de 80 ans. Alors pour ce qui est de cette année, je vais commencer par une publication qui n'est pas dans la collection, mais qui est liée à la collection puisqu'elle célèbre les 80 ans de cette collection. Il y a eu un colloque organisé par Anna Lampadariri, qui est ici présente, ainsi que Madame Koudoura Galaki et moi à Athènes, donc en 2022, et c'est cette publication qui est paru sous le titre « Sources et méandres des lettres grecques, textes, manuscrits et éditions de sources patristiques et byzantines ». Il y a eu plusieurs colloques à l'occasion des 80 ans, et c'est l'une des publications. Nous attendons aussi les actes du colloque qui a eu lieu un peu après à Thessalonique. Alors, je suis bien moins qualifié sans doute que Laurence Mellerin pour parler d'Ambroise de Milan et de ce livre extrêmement important, donc des lettres d'Ambroise de Milan, tome 5. Nous avons 10 livres de lettres d'Ambroise, mais ici nous avons un livre qui est consacré aux écrits, aux lettres qui concernent des adressées à des personnages publics et concernant des affaires publiques. Et donc c'est une entreprise qui devrait comporter plusieurs tomes. Ici, Gérard Noroy, malheureusement décédé, a livré ici toute son expertise. Et les textes sont d'une importance capitale dans plusieurs domaines. Vous avez aussi bien l'affaire de la virginité de Marie après la naissance du Christ, que le schisme d'Antioche, qui divisait donc l'Église entre les Ariens et ceux qui reconnaissaient le Concile de Nicée. Vous avez également la fameuse affaire de l'incendie d'une synagogue à Kalinikon en Syrie. Est-ce que c'est à l'évêque du lieu de réparer la synagogue qui a été brûlée par des chrétiens? eh bien Ambroise monte au créneau pour dire non, c'est un scandale qu'un évêque ait à reconstruire une synagogue, puisque la synagogue appartient au passé. Voilà, vous imaginez un peu le genre de discours. Et c'est pour lui tout aussi un scandale d'imaginer que l'empereur chrétien Théodose fasse cette reconstruction aux frais de l'Empire. Donc là, c'est Ambroise qui obtient gain de cause, de même qu'il obtient gain de cause dans une affaire extrêmement importante du point de vue symbolique. Il s'agit de la disparition, l'enlèvement de l'autel de la victoire dans le Sénat romain. Il était resté un culte païen dans ce Sénat romain, consacré donc à la victoire. Et il y avait même des vestales, un culte, un personnel cultuel qui était payé aux frais de l'empereur. L'empereur Gratien, en 384, si je me trompe pas, y met fin, déclenchant l'hostilité du préfet de la ville et du princeps senatus, à savoir Symmac. Et Ambroise inclut dans sa correspondance le texte de Symmac, qui est un modèle d'éloquence classique. Et il lui répond beaucoup plus longuement, et c'est lui qui obtient gain de cause. Affaire encore plus dramatique, à savoir celle de l'opposition d'Ambroise avec les Ariens, ou les Oméens, de la ville de Milan, qui avaient obtenu, semble-t-il, de pouvoir célébrer dans une des basiliques de la ville. Ambroise lui-même se retrouve dans un état de siège, dans sa propre église, et il improvise un sermon très long, qui est considéré comme l'un des plus brillants de l'Antiquité chrétienne latine. Et voilà, il est quasiment prêt au martyr, hein, et il fait plier et l'empereur et ses adversaires homéens. Donc c'est un ensemble de textes qui sont d'une importance capitale dans la façon dont la relation entre l'Église et l'État, l'Église et le monde, l'Église et le paganisme ont pu évoluer. Et une des phrases les plus significatives, vous voyez, et qui dit aussi quelle était l'autorité d'un Ambroise par rapport aux empereurs romains, même chrétiens. L'empereur est au-dedans de l'Église, il n'est pas au-dessus de l'Église. Et voilà, il se trouve que nous fêtons les 120 ans de la séparation de l'Église et de l'État en France, et voyez que d'une certaine façon, ça remonte vraiment plus loin. Voilà, malheureusement, je ne peux pas présenter dans le détail l'ensemble de ce de très très beau volume dans lequel vous trouverez beaucoup de textes absolument centraux pour beaucoup de d'affaires antiques. Je ferai qu'évoquer un texte magnifique de Bernard de Clairvaux, écrit aux alentours de l'an 1120, Les degrés de l'humilité. C'est un commentaire du chapitre 7 de la règle de Saint Benoît, consacré donc au degré de l'humilité. C'est un texte assez étonnant, qui a parfois été mal compris, et même, je dois dire, jusqu'à la dernière minute, aux sources chrétiennes, on a hésité sur le titre. Est-ce qu'il fallait faire comme on faisait auparavant et l'intituler « Les degrés de l'humilité et de l'orgueil ». Eh bien non, c'est bien l'humilité seule qui était l'objet de l'attention de Saint Bernard de Clairvaux. Et je vais simplement, à défaut de tout dire, montrer à quel point la lecture de Saint Bernard était unitive. Et son idée, c'est que le chemin d'humilité n'est autre que le chemin, à savoir le Christ. Et donc, en fait, il n'y a qu'un seul chemin, celui de l'humilité, c'est aussi celui de l'orgueil, mais en sens inverse. Et voici le texte. « Si tu désires revenir à la vérité, nul besoin de chercher une voie nouvelle, inconnue de toi. prends la voie que tu connais bien, celle par laquelle tu es descendu. Et ainsi, suivant toi-même tes propres traces dans une marche à rebours, tu monteras, couvert d'humiliation, ces mêmes degrés par lesquels, plein d'orgueil, tu étais descendu. Ça, c'est extrêmement nouveau parce que ça unifie la vie spirituelle. Quand vous vous trouvez à un certain niveau d'orgueil, eh bien, vous pouvez, en quelque sorte, sur le même degré de l'échelle, vous trouver au degré correspondant de l'humilité. Et toute la question est de savoir si vous voulez descendre, si vous voulez monter. Et quelque chose me dit que si vous voulez monter, en fait, il faut s'abaisser. Et inversement, si vous voulez vous élever, il faut vous abaisser. Et alors, il y a pour cela un commentaire, une magnifique enluminure d'un manuscrit du XIIe siècle, une enluminure célèbre qui est commentée dans le volume, qui montre bien qu'on a affaire à une seule échelle, c'est l'échelle de Jacob revisitée dans la sphère monastique. Et je vous invite à lire le livre et puis à vous demander, mais moi je suis où? Et alors, en positionnant vous-même, est-ce que vous allez vous positionner sur un degré d'humilité? Mais en le faisant, est-ce que vous êtes vraiment humble? Et si vous positionnez sur un degré d'orgueil, est-ce que vous êtes si orgueilleux que ça? Voilà, ça c'est juste une question qui sans doute va rester ouverte. Et donc si vous voulez en savoir plus sur cet ouvrage, il y aura les actes d'un colloque qui a eu lieu à Rome à l'automne dernier. Il sera publié, je pense, d'ici l'an prochain. Je passe au volume suivant, qui m'est cher, puisque c'est de Jean Chrysostome, le tome 2 des Panégyriques de Martyrs, consacré cette fois-ci à des textes où les femmes ont le premier rôle. Béni soit Dieu, même des femmes se moquent désormais de la mort, dit Jean Chrysostome. Alors vous aurez apprécié ce « même des femmes » qui n'est pas tout à fait féministe. Toujours est-il que Jean Chrysostome les vante, il est à Antioche et il promeut de fait le culte des martyrs, de ces martyrs qui étaient connus à Antioche. La première d'entre elles, Pélagie, morte après 303, qui échappe aux soldats venus la chercher chez elle. Elle monte sur le toit, se jette du toit pour protéger sa vertu du regard des soldats licencieux. Il fait un éloge vibrant des Maccabées, donc ces martyrs d'Israël, qu'il considère comme absolument chrétiens, puisque pour lui, il porte les stigmates à cause du Christ. Donc il n'est pas le seul, hein, dans la littérature patristique, hein, à fêter les Maccabées comme des martyrs authentiquement chrétiens en même temps que juifs. Et il reconnaît en eux le plus haut degré de la philosophie, notamment la mère des sept frères Maccabées, dit Maccabée, qui non seulement ne pleure pas, mais exhorte ses enfants au martyr. Alors, peut-être un texte, voilà. Ça va jusqu'au paradoxe, et un peu plus que le paradoxe. Une mère qui habille ses enfants pour le mariage n'éprouve pas autant d'allégresse que cette mère éprouva de joie à la vue de ses enfants suppliciés. Elle se comportait comme si elle revêtait l'un de son vêtement de noces, tressait pour un autre une couronne, dressait pour un autre la chambre nuptiale. Elle se réjouissait ainsi en voyant l'un courir vers le chaudron, un autre vers le grill, un autre se faire trancher la tête. Tout était plein d'une odeur de fumée et de graisse brûlée, et par tous ses sens, elle percevait ce que ses enfants étaient en train de subir. Par ses yeux, elle voyait ses enfants, par ses oreilles, elle entendait leurs paroles chéries, par son nez, elle recevait la fumée suave et répugnante de leur chair, répugnante pour les impies, mais la plus suave de toutes pour Dieu et pour elle-même. Voilà, je ne sais pas si cette évocation répond à tous les critères du bon goût de nos jours. Vous voyez que le prédicateur ne recule devant aucun effet rhétorique. Alors je vais devoir passer sur l'éloge de Domnine et de ses filles Bernice et Prosdos, avec encore ce courage de la mère qui, devant la devant la menace, échappe aux soldats et préfère se noyer dans le fleuve et noyer ses propres filles dans le fleuve, dans le Frat. Dernier éloge, celui de Drosis, qui permet de méditer sur la mort. Et Drosis est l'une des plus anciennes martyrs d'Antioche. Elle est morte sur le bûcher, sans doute le 14 décembre 115, après un terrible séisme. Et voilà, la notion de nature féminine est très importante chez les pères de l'Église. Et ici, l'idée qu'ils développent, c'est plus le vase est faible, plus la grâce est grande. Et la façon dont il fait son éloge est la suivante. Le diable fut vainqueur à travers une femme. Il est vaincu à travers une femme. Elle fut d'abord son bras armé, elle est maintenant l'instrument de son exécution, une arme invincible. La première avait péché et trouva la mort. La seconde est morte pour éviter le péché. L'une, gonflée de l'espoir d'une vaine promesse, foula aux pieds les lois de Dieu. L'autre, pour ne pas renier sa foi envers son bienfaiteur, méprisa même la vie présente. Quelle excuse pourrait-il donc rester à des hommes ramollis? Quel pardon quand des femmes agissent en hommes? Vous voyez, la fameuse antithèse Ève et Marie qui est ici développée en plusieurs éléments. Voilà donc pour ces panégyriques. Il pourrait y avoir davantage de volumes de panégyriques de Jean Chrysostome, mais le travail est extrêmement long encore. Donc pas de tome 3 à attendre avant quelques décennies peut-être. Je passe au volume suivant qui cette année revêt une importance particulière puisqu'il s'agit d'Athanase d'Alexandrie, la lettre sur les décrets du concile de Nicée. Alors, quand on a traduit par décret, il s'agit non pas des canons du concile, mais des décisions au sens large des pères conciliaires. Ce qui est étonnant, c'est que Athanase écrit cette lettre seulement, sans doute, et ça c'est l'un des points nouveaux dans ce livre, écrit par Xavier Morales, c'est seulement dans le courant de l'année 357. Et donc vous calculez, Nicée, vous savez maintenant hein, que c'est 325 je pense, et donc il a mis plus de 30 ans à s'apercevoir que oui, c'était important de citer le credo de Nicée et le fameux fils consubstantiel au père. Et voilà, pourquoi est-ce qu'il n'en a pas ressenti le besoin, c'est un peu une énigme qui peut aussi se comprendre par le fait que de plus en plus, il était question de refuser toute expression dans le credo qui ne soit pas biblique. Et il y a eu un réel débat dans les années 350 au sujet de l'emploi du mot consubstantiel qui était défendu à nouveau par le pape Libère. Et donc dans ce retour du mot consubstantiel dans les débats, Athanase a fini par monter au créneau. Et donc c'est là qu'on trouve un virage important dans sa théologie et les prémices de ce qu'on trouve dans ses ouvrages de théologie postérieurs qui, bien sûr, développent l'idée de consubstantiel. Alors vous trouverez beaucoup de choses contre Eusèbe de Nicomédie, à savoir un arien de cours qui était très proche de Constantin, c'est lui qui a baptisé Constantin. Dans le texte, les spécialistes sont pas d'accord, on parle d'Eusèbe de Nicomédie ou bien de l'autre Eusèbe, Eusèbe de Césarée évidemment, dont Athanase met la lettre en annexe, une lettre dans laquelle il explique à ses propres fidèles de Césarée pourquoi il a signé malgré tout le credo de Nicée. Parce que Eusèbe non plus n'était peut-être pas tout à fait d'accord et lui-même il avait été condamné juste avant le concile de Nicée. On se demande d'ailleurs comment il a fait pour revenir, si je puis dire, en odeur de sainteté au moment du concile. voilà, toujours est-il que, semble-t-il, Eusèbe de Césarée est légèrement mis en valeur par Athanase pour faire contraste par rapport à son successeur sur le siège de Césarée, à savoir Acas, qui lui était contre le credo de Nicée. Et donc, c'était une façon de dire, voyez, Athanase était pour, et vous, vous êtes contre. Vous n'avez pas honte? Voilà. Alors, quant au vocabulaire, au type de langage employé par Athanase, c'est toujours aussi fleuri. Je vous citerai simplement ce passage. Quant à ces individus, avec leurs impiétés de potache et leurs mouvements de girouette envers la vérité, puisqu'ils ne trouvent rien de mieux que de calomnier le synode, qu'ils nous disent donc de quel passage des Écritures ils ont appris, ou lequel des saints ils ont entendu prononcer les slogans qu'ils collectionnent. Issus du néant, il n'existait pas avant d'être engendré, il eut un moment où il n'existait pas, il parle du Fils évidemment, muable, préexisté, et par une décision de volonté, avec lesquelles ils affabulent pour se moquer du Seigneur. Toutes formules qui ne sont pas bibliques, pas plus que consubstantielles, vous voyez. Alors j'ai pas le temps de développer l'ensemble du livre. En fait, ce livre, c'est plus qu'un livre, c'est un dossier. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'a été adjoint, soit par Athanase, soit par ses successeurs, ou ses proches éditeurs, tout un dossier de lettres d'Athanase, d'Alexandre d'Alexandrie, et pas moins de 5 lettres de Constantin. Et pour moi, ça a été, même s'il existe d'autres livres qui traduisent des textes de Constantin, c'était un peu une révélation de lire la prose de Constantin qui est assez gauche en grec et qui se prend un peu pour Constantin, vous voyez. Mais un peu plus que ça, qu'il s'en prend de manière très nette à Arius, et donc il y a tout un catalogue d'injures dans la bouche de Constantin. Je vous invite à lire ça de plus près dans ce volume. Alors je devrais parler très vite de 2 volumes, pas seulement un seul, mais 2 gros volumes consacré au traité sur la prière d'Origène. Voilà, c'est un traité fondamental pour la spiritualité chrétienne qui a eu une influence fondamentale, par exemple sur Grégoire de Nice. Alors simplement un texte pour le présenter. Dans les premières pages du traité, Origène écrit: vous êtes quelque peu surpris qu'en préambule à ce traité sur la prière qui vous est dédié, il soit question des choses qui sont impossibles aux hommes et qui, par la grâce de Dieu, deviennent possibles. C'est que je suis convaincu, étant donné notre faiblesse, qu'une des choses grandement impossibles est de parvenir à élucider en tout point, de façon exacte, digne de Dieu, la question de la prière. De quelle manière il faut prier, ce qu'il faut dire à Dieu quand on prie, et quels temps et moments sont propices à la prière. Là, c'est bien, vous avez un plan en 3 parties qui est annoncé dans l'introduction. Donc là, vous êtes relativement en territoire connu. Je dois dire que voilà, tout n'est pas absolument simple dans ce traité, mais vous avez une excellente introduction de Daniel Vigne que, par certains côtés, je préfère même au texte d'Origène par sa clarté. Mais je vais citer quand même un autre texte qui parle un peu du Père qui est aux cieux, voyez. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Origène écrit: celui qui fait la volonté de Dieu est un ciel. Donc notre Père qui est aux cieux. Celui qui pêche, en quelque lieu qu'il soit, est terre. Demandons que la volonté de Dieu, de même qu'elle est au ciel, soit accomplie sur la terre. Je veux dire, chez les moins bons, en vue, pour ainsi dire, de leur cielification, en sorte qu'alors il n'y ait plus de terre, mais que tout devienne ciel. Voilà, une évocation grandiose et surtout un néologisme qui respecte tout à fait l'ouranopoiesis qu'on trouve sous la plume d'Origène. Donc voilà, c'est un horizon, tout un ciel qui s'ouvre devant nous et peut-être en nous. Je dois passer malheureusement et évoquer au moins un tout petit peu les lettres d'Évagre le Pontique dont il était question ici même avec l'antirétique lors de la soirée de décembre 2024 avec Paul Géhin, l'auteur de ce volume des lettres. C'est un un volume extrêmement important à mes yeux, parce qu'on découvre un Évagre assez différent de celui qu'on a dans ses autres écrits. Vous avez aussi des textes qui sont d'importance majeure, la lettre sur la foi, vous avez 62 lettres, vous avez la grande lettre dite à Mélanie, conservée en syriaque, mais avec quelques fragments grecs. Donc c'est un livre qui est en très grande partie en syriaque. Pour nous, c'est un intérêt supplémentaire, je dois dire. Si vous voulez savoir ce qui est arrivé à Évagre lorsque il a eu une histoire d'amour avec une femme mariée de Constantinople en 380-381, eh bien, vous ne le saurez pas en lisant la lettre où il dit qu'il va s'expliquer là-dessus. Mais vous en saurez plus sur sa façon de répondre à ses correspondants. Vous aurez un éloge de la douceur, un éloge extraordinaire, parce que quand on sait que chez lui le plus important c'est la science, eh bien il y a quelque chose qui est peut-être encore plus important que la science, c'est la douceur. Alors voilà, c'est comme ça qu'il introduit une lettre où en fait il va parler de quoi ? Il va parler de la Sainte Trinité. Et il dit: je confesse que j'ai été fugitif, je ne le nie pas, mais la cause, vous pouvez la prendre maintenant puisque vous le désirez probablement depuis longtemps. Mais oui, qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme ? Eh bien non, il s'agit de savoir que Dieu est un et trine. D'une manière d'ailleurs assez originale encore à cette époque-là. Le texte suivant. Donc la douceur pour Évagre est la mère de la science. Et je ne sais pas s'il applique, s'il pratique vraiment la douceur dans toutes ses lettres. En tout cas, il fait son éloge à travers la figure de Moïse. Pourquoi l'Écriture, quand elle veut faire l'éloge de Moïse, laisse de côté tous les miracles qu'il a accomplis et mentionne seulement la douceur. Elle fait seulement cet éloge. Moïse était le plus doux de tous les hommes, auquel grande merveille que toute la sagesse de Moïse soit comprise dans deux syllabes, praus en grec. Voilà, donc puis une évocation grandiose aussi de l'humanité, des fleuves de l'humanité qui se jettent dans l'océan de la divinité et qui n'ont plus de fin puisqu'ils se jettent dans celui qui lui-même n'a plus de fin. Je dis juste un mot des lettres festales de Cyril d'Alexandrie. Donc nous avons ici le tome 5, sachant qu'il manque le tome 4 qui ne sera pas prêt avant longtemps. Et les lettres festales, ce sont les dates qui annoncent le début du carême et de la date de Pâques à Alexandrie, en l'occurrence dans les années 438 à 442. Et ce qui m'intéresse en particulier, c'est le caractère un peu exotique, quasi pharaonique de ce langage. Alban. Nous célébrerons notre fête sainte et toute pure en commençant par le Saint Carême à partir du 20e jour du mois de Méchir, et la semaine de la Pâque salutaire à partir du 25e jour du mois de Phaménot, etc. Vous voyez, voilà, je crois qu'on n'a pas tout à fait le même calendrier aujourd'hui. Voilà, je dois passer et évoquer les miracles de Saint Julien de Brioude par Grégoire de Tours, notre deuxième volume de Grégoire, et il y en aura un troisième d'ici quelques mois. Et donc, Pour Grégoire de Tours, et bien sûr Saint Martin est le saint principal, mais il avait ce qu'il appelle un patronus specialis, un patron tout particulier pour lui, à savoir ce Julien, mort dans son Auvergne natale. Et voilà, vous avez beaucoup de miracles qui sont assez classiques, je dirais. Beaucoup relèvent de la farce, et il y a un talent littéraire extraordinaire chez notre historien, et peut-être un peu d'humour qu'il prête, en tout cas si on en croit un des textes, lorsqu'il fait venir Saint Martin, Privat, Féréol, Saint Forien, en renfort contre un énergumène, donc un possédé. Et devant toutes ces figures, le démon demande à Grégoire: mais tu réunis un concile? Voilà, je pense que c'est une façon de célébrer les conciles à laquelle on n'avait pas pensé. Dans les volumes qui vont suivre, vous en avez deux qui sont ici, alors même qu'ils sont pas encore parus, à savoir le tome 3 du commentaire sur le Cantique des Cantiques de Grégoire de Nice et le Contre Helvidius de Jérôme, deux volumes très importants qui paraissent le 2 janvier. Et donc vous avez ici en avant-première. Et vous voyez que nous avons un bon programme pour 2026 et peut-être pour 2027. Et puis, je fais une petite pub pour notre site Bible Index que Laurence Mellerin avec d'autres fait progresser de manière très importante, aussi bien pour les outils bibliques que pour les outils patristiques, même si ce point-là reste encore à développer. Je signale aussi l'existence de la base de données Sources chrétiennes online, développée par Brépolis, en accord avec les éditions du CERF. Nous y collaborons aussi. Et c'est une base de données qui est unique en son genre, dans la mesure où elle vous permet, même si c'est sur 600 et quelques volumes, d'interroger une très grande partie de la littérature patristique, quelle que soit la langue. C'est-à-dire que vous pouvez mettre des mots en français, en latin, en grec, etc. Vous y retrouvez, vous pouvez faire des ponts entre beaucoup de textes. Les autres bases de données sont soit en latin, soit en grec, pour ne parler que de ces deux langues. Et puis, donc voilà, si vous voulez avoir davantage de renseignements sur les sources chrétiennes, vous avez bien sûr le bulletin de l'association des amis sources chrétiennes, et puis notre site web, sourceschrétienne.org. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.
Merci beaucoup pour cette présentation, effectivement, parce que on réalise, enfin, quand même une dizaine de volumes dans l'année. C'est quand même, c'est magnifique. Merci beaucoup. Et donc, sans attendre, je laisse la parole à Dominique Gonnet, maintenant, qui va nous dire quelques mots pour finir sur l'association des Amis de Sources Chrétiennes.
Et voilà. Donc, vous voyez le bulletin qui paraît chaque année et il paraît même, cette fois-ci, en septembre. Il paraîtra dorénavant en septembre, ce qui permettra d'être à jour pour les projets de l'année à Sources Chrétiennes. Alors, ce qui est important, peut-être un certain nombre de vous, que ce soit ici en présentiel ou en distanciel, ont eu l'information par une newsletter qui est toute récente, qu'on doit à la collaboration de Didier Lamy. Donc, cette lettre vous permet d'avoir, disons, la substance de façon moins drôle, mais presque autant, par écrit, de la présentation des livres en temps réel. Donc, s'y abonner, je vais mettre l'adresse ici, en même temps l'adresse web de l'association elle-même, parce que donc ça c'est l'adresse qui représente toute cette dimension scientifique de collaboration avec le CNRS. Puis on a, pour distinguer, j'allais dire l'Église et l'État d'une certaine façon, bon, en tout cas pour distinguer l'association de l'équipe CNRS, il y a cette adresse. Donc je l'ai dit oralement et je vais l'écrire au tableau. Donc c'est contact@sourceschretienne.net et ça c'est l'adresse du mail et l'adresse du site c'est tout simplement sourceschretienne.net. Si vous cherchez Sources Chrétiennes Association dans Google, vous le trouverez facilement. Et voilà, je vais l'écrire ici en grand.
Alors l'association c'est .net.
C'est .net.
Oui. .net pour l'association, .org et tout ça sans accent pour le site général.
Par ce moyen-là, vous pouvez aussi donc adhérer à l'association et recevoir donc en format papier chaque année le bulletin. Voilà, je laisse Michel terminer.
Voilà, je voudrais simplement conclure cette soirée en remerciant à nouveau John Lagoué et Yves Vendée pour leurs interventions. Vous avez aidé à entrer dans une première connaissance de ce très très beau volume Texte chrétien chinois du Moyen-Âge. Et puis merci beaucoup à Guillaume Badi et Dominique Gonnet pour leur présence et pour cette présentation des productions de la collection Sources Chrétiennes au long de l'année 2025. On a beaucoup de chance d'avoir en France, outre la bibliothèque augustinienne pour les œuvres d'Augustin, cette magnifique collection Sources Chrétiennes. Et je crois qu'on doit beaucoup vraiment à l'équipe qui travaille assidûment pour permettre que chaque année, eh bien, il y ait un certain nombre de volumes qui paraissent ainsi. Et merci beaucoup, bien sûr, à vous tous, ceux qui sont présentiels, ceux qui sont distanciels. Merci beaucoup pour votre participation à cette soirée. Merci. Recording stopped.